RFI, il est midi à Paris, 10h en temps universel. Merci de rester à l'écoute. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, un accord conclu par l'Ukraine et les États-Unis en marge des tentatives diplomatiques pour ramener la paix dans la région. Un accord sur l'exploitation des ressources naturelles présentes dans le sous-sol ukrainien. Du point de vue américain, c'est une contrepartie de l'aide, notamment financière, accordée par les États-Unis depuis le début du conflit à Kiev, à suivre dès le début du journal. En ce 1er mai, journée internationale du travail, des cortèges sont annoncés un peu partout dans le monde. En France, pas d'unité syndicale. Le monde du travail défile en ordre dispersé pour défendre l'emploi, alors que le chômage progresse en France. Dans ce journal aussi, du football. 3 buts partout hier soir en Ligue des Champions entre Barcelone et l'Inter de Milan. Pas de vainqueur, mais un très beau spectacle. Ukrainiens et Américains se sont donc mis d'accord sur un vaste partenariat économique comprenant des investissements communs dans le développement et la reconstruction du pays agressé par la Russie. Cet accord Washington-Kiev intervient parallèlement à toutes les tentatives diplomatiques pour trouver une issue au conflit. Du point de vue de la Maison-Blanche, c'est une contrepartie que devait l'Ukraine. En 3 ans de guerre, les États-Unis lui ont accordé des dizaines de milliards de dollars d'aide. Guillaume Nodin.
Cette fois, pas de déraillement de dernière minute comme lors de la réception explosive de Volodymyr Zelensky en février. Les deux pays vont investir à 50% chacun dans ce fonds qui va servir à la reconstruction du pays. Et pour cela, les États-Unis pourront accéder aux ressources minières et énergétiques de l'Ukraine. Le fonds sera basé sur des investissements nouveaux, des concessions d'exploitation nouvelles et non sur de l'existant. Il n'est à aucun moment question de rembourser l'aide fournie depuis 2022 par les États-Unis. Cela n'empêchera pas non plus la candidature ukrainienne à l'entrée dans l'Union européenne. Le fonds créé doit aussi répondre aux meilleurs critères de transparence et de gestion. C'était un point important pour les républicains américains qui ont souvent dénoncé le niveau de corruption dans le pays. Si l'accord n'est pas assorti de garanties de sécurité au sens strict, le département américain du Trésor insiste néanmoins sur le fait que l'administration Trump est attachée à un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Et ce message s'adresse explicitement à la Russie. Ces derniers jours, Donald Trump a fait à plusieurs reprises part de sa frustration alors que les missiles russes continuent à tomber sur les villes ukrainiennes. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et en effet, la Russie, pendant ce temps, continue d'attaquer l'Ukraine. Cette nuit, elle a tiré un drone sur une zone résidentielle d'Odessa, le grand port du Sud. Il y a au moins 2 morts et 5 blessés. Toujours le risque d'escalade entre l'Inde et le Pakistan, malgré les appels à la retenue lancés entre autres par les États-Unis. Pour le moment, ce ne sont que des escarmouches. Les armées des deux pays ont de nouveau échangé des tirs ce matin en Cachemire, région sous tension depuis l'attaque meurtrière du 22 avril imputée par l'Inde au Pakistan. Côté pakistanais, les autorités du Cachemire ont décidé de fermer par précaution toutes les écoles coraniques, renvoyant des milliers d'enfants chez eux. En ce 1er mai, journée internationale du travail, des cortèges sont annoncés un peu partout sur la planète. Pas seulement pour fêter le travail d'ailleurs, les mots d'ordre sont variés. Le président colombien appelle à défendre les réformes. On marche contre le gouvernement au Salvador. De même qu'en Serbie, 6 mois après l'effondrement tragique d'un auvent en gare de Novi Sad, les étudiants serbes ont appelé à manifester, rejoints pour la première fois par les principales organisations syndicales. En France, cette année encore, ce 1er mai se déroule sous haute tension sociale. La préparation du budget 2026 et les 40 milliards d'euros d'économies que le gouvernement tente de trouver concentrent actuellement tous les mécontentements. Plus de 250 cortèges sont annoncés, mais les syndicats défileront en ordre dispersé. Le programme avec Myriam Berber.
La CGT, Force Ouvrière Solidaire et la FSU, premier syndicat de l'éducation, ainsi que des organisations de jeunesse, dont l'UNEF, l'Union étudiante, ou le MNL, le Mouvement National Lycéen, ont lancé un appel commun pour défendre une hausse des salaires et des pensions de retraite, ou bien encore la paix dans le monde. De son côté, la CFDT appelle à rejoindre les cortèges pour revendiquer une Europe plus protectrice pour les travailleurs. Aux côtés des organisations syndicales, les 4 forces de gauche qui composent le nouveau Front populaire défileront également dans les rues. Pas de mot d'ordre unique, mais tous les syndicats s'opposent à un assouplissement du Code du travail selon lequel le 1er mai est un jour férié et chômé. Des sénateurs et le gouvernement réclament en effet que certains commerces comme les boulangeries et les magasins de fleurs, déjà autorisés à ouvrir le dimanche, puissent aussi le faire le 1er mai. Cette revendication sera au cœur des cortèges, tout comme le refus des 40 milliards d'économies budgétaires prévues sur les dépenses publiques, des coupes qui devraient viser les collectivités locales et les services publics.
Myriam Berber du service Seco. J'ajoute qu'à Paris, la manifestation s'élancera en début d'après-midi à 14h précisément de la place d'Italie vers celle de la Nation. Au Royaume-Uni, à la fête du travail s'ajoutent des élections locales. Les premières élections depuis l'arrivée au pouvoir l'été dernier du Labour du Premier ministre Keir Starmer. Elles ont valeur de test pour les deux principaux partis travaillistes et conservateurs. À surveiller aussi le score de l'extrême droite anglaise et la fragmentation du paysage politique. Du mieux sur le front des incendies en Israël. Les pompiers continuent de lutter contre le feu qui fait rage depuis hier près de Jérusalem. Mais ce matin, plusieurs routes qui avaient dû être fermées ont pu rouvrir. Le feu est attisé par des températures élevées et des vents violents. En Irak, la fin d'une aventure radiophonique longue de 10 ans. Les lumières se sont éteintes pour de bon hier dans les studios de Radio El Salam à Erbil, dans le Kurdistan irakien. La radio, qui diffusait en arabe, en kurde ou bien encore en syrien, disparaît faute de financement. Elle avait vu le jour grâce à l'initiative de Radio Sans Frontières et d'autres ONG et elle émettait en direction des réfugiés fuyant les exactions de Daesh. Correspondance à Erbil de Lucas Lazo.
Radio Salam. Dernière fois que le jingle de Radio Al Salam se propage sur les ondes dans le nord de l'Irak. Toute l'équipe est réunie dans le studio pour une ultime émission collective. Les derniers mots sont pour Annie.
Honnêtement, je suis effondré. Chacun d'entre nous a des origines différentes. Je suis syrien, par exemple. Nous sommes d'Iran, d'Irak, du Kurdistan. Ce petit groupe représente la diversité irakienne. Mais nous travaillons ensemble et cela fonctionne, je crois.
La diversité des 7 journalistes de la radio est à l'image de ses auditeurs, ceux pour qui elle a été créée en 2015 en marge de la guerre contre Daesh.
La plupart des réfugiés en Syrie ou en Irak n'ont pas de porte-voix. Radio El Salam, c'était leur micro. Parce que nous ne suivons pas les partis politiques ou les agendas religieux. Il faut plus de radios comme Radio El Salam, neutre, des voix pour ceux qui n'en ont pas.
Une indépendance dont les auditeurs sont désormais orphelins, regrette Samir, derrière le micro depuis les premiers temps de cette aventure.
Ces derniers jours, il y a tellement de messages. Ils demandent, s'il vous plaît, vous ne devez pas faire ça, en fait, c'est inacceptable. C'était notre radio, c'était notre maison.
Dans le studio, on passe du rire aux larmes. Radio El Salam rend l'antenne en Irak, laissant un immense vide dans le paysage médiatique. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Dans l'actualité économique du jour, le marché automobile français continue de faire grise mine. Les immatriculations de voitures neuves ont diminué de presque 6% en avril. En ce qui concerne les voitures électriques Tesla, c'est une vraie chute, moins 60%. Visiblement, la marque américaine souffre de l'image sulfureuse de son patron Elon Musk. En football, la fin des demi-finales allées en Ligue des Champions. Hier soir, pas de vainqueur entre Barcelone et l'Inter Milan, mais un beau spectacle. Score final, 3-2. Mené au score 2 fois, le Barça a su revenir pour garder toutes ses chances d'atteindre la finale. Comme souvent, Sofiane Amazian, le jeune joyau espagnol Lamine Yamal, a éclaboussé le match de son talent.
Il y a des joueurs comme ça qui ne laissent personne insensible. Lamine Yamal fait évidemment partie de cette catégorie. L'ailier a d'ailleurs battu 2 nouveaux records ce mercredi soir face à l'Inter. Plus jeune joueur a disputé 100 matchs avec le Barça et a marqué en demi-finale de la Ligue des Champions à 17 ans et 292 jours devant un certain Kylian Mbappé. La jeune pépite a d'abord du mal à démarrer comme son équipe menait rapidement 2-0 avec des buts magnifiques signés Marcus Thuram et Denzel Dumfries. Scénario catastrophe à Barcelone. Lamine Yamal, cheveux teint en blond, demande au sien de se calmer avant de débuter son récital. Un slalom dans la surface pour le 2-1, puis cette barre transversale touchée quelques instants plus tard, avant l'égalisation méritée de Ferran Torres sur une offrande du Brésilien Rafinha, 24e passe décisive de la saison. Supérieur techniquement, le Barça se fait surprendre en deuxième période sur corner pour le doublé de Dumfries, mais revient au score, encore grâce à la frappe sèche de Rafinha contrée par le gardien de l'Inter, Yann Sommer. Yamal a même eu une balle de match, mais son tir brossé a une nouvelle fois heurté la barre. Que d'émotion pour un match aller. Tout reste à jouer à Milan, mardi prochain.
Un mot du tennis à Madrid. Qualification pour les quarts de finale du Canadien Diallo, vainqueur du Bulgare Dimitrov. Il affrontera pour une place dans le dernier carré l'Italien Musetti. Enfin, la doyenne du monde, une Brésilienne de Porto Alegre, décède à l'âge de 116 ans et 326 jours. La nouvelle doyenne est désormais une Anglaise qui réside dans le comté de Surrey. Son âge, 115 ans. Midi et presque 10 minutes ici à Paris. Il est grand temps de retrouver Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et merci à vous.